Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur diverses thématiques et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Suite de notre série de forums au parc du W à 150 km de Niamey pour parler de l'importance des aires protégées, le cas du parc national du W. Le parc national du W, qu'est-ce que c'est? Quand a-t-il été créé? Par qui? Et pourquoi? Quelles sont les caractéristiques de ce parc, quels sont les genres d'espèces animales qui y vivent, qu'est-ce que le tourisme développé autour du parc rapporte aux populations riveraines, en particulier au Niger en général, quels sont les atouts et les défis de la gestion transfrontalière du parc, quelles sont les principales difficultés liées à la gestion de ce parc. Ce sont là, entre autres questions, auxquelles le forum de ce soir tentera d'apporter des réponses. Pour en parler, nous sommes avec le préfet de Saï, Mustapha Mahman, également avec nous le maire de Tamou, Yacouba Diallo, et le directeur de la faune, de la chasse et des parcs et réserves, Samaïla Sahailou, et le colonel Moussa Djibay, qui est le conservateur du parc national du W. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le forum d'aujourd'hui. Je le disais, la thématique autour de laquelle tourneront nos échanges est l'importance des aires protégées. Le cas du parc national du W, le parc national du W, est une réserve naturelle regorgeant d'importantes espèces animales créée en août 1954. Le parc, d'une superficie de 10 000 km², protégé depuis 2007 par la Convention de Ramsar I, la Convention sur les zones humides. Le parc est géré conjointement par le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Le parc tient son nom de la forme en W d'une série de méandres du fleuve du Niger en ces lieux. Le parc national du Niger est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 et reconnu en tant que réserve de biosphère transfrontalière depuis 2002 par l'UNESCO. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le directeur de la faune, de la chasse, des parcs et réserves, qui est Samaïla Sahailou. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez d'autres précisions ou quelques éléments d'information pour compléter cette introduction que je viens de faire?
Merci à l'équipe de Radio Kalangu de nous donner cette possibilité d'informer l'opinion nationale et internationale par rapport à ce site d'importance pour la conservation de la biodiversité. Et je voulais vous rappeler que le parc W ou le parc régional W, c'est une entité écologique d'importance qui est située, comme vous l'avez dit, à 150 km de Niamey, la capitale, à 5 heures de vol de Paris. Et ce parc intègre le parc régional W. C'est la plus petite partie du complexe W, 220 000 hectares, mais la plus riche en termes de biodiversité. Le conservateur va vous rappeler cela. Mais si, moi, je vais m'appesantir sur le caractère régional de ce complexe. Il est partagé entre le W Bénin, le W Burkina et le Niger. Nous avons signé, en termes de sa conservation, plusieurs accords. L'accord de 1984 pour justement la surveillance, la lutte anti-braconnage avec les autres États. Nous avons signé plusieurs autres accords, notamment celle récemment de la Tapoua, dont vous allez voir au niveau de l'hôtel Tapoua, la déclaration de la Tapoua où des engagements ont été pris. Et à partir de 2001, la mise en œuvre d'un programme régional où nous avons assuré ensemble avec les collègues du Bénin, du Burkina, la gestion concertée et après un programme aussi d'appui au parc de l'Entente, justement avec les trois pays où nous avons mis en œuvre des infrastructures structurantes de surveillance et de l'hydraulique à travers les mares, et aussi d'autres aspects, notamment l'éducation environnementale.
Alors, monsieur le directeur, le parc national du W a été créé par qui et pourquoi?
Il a été créé en 1954, vous l'avez dit, par Dr Fiançon, qui est en français, et qui, dont l'objectif principal, c'est la conservation, l'éducation environnementale et le tourisme. Le noyau central, nous mettons l'accent sur l'éducation environnementale, le tourisme, la recherche appliquée. Le tourisme pour mobiliser des ressources pour les populations locales. Écoutez, là, il y a une certaine mutation. Les gens pensent que le parc, c'est la répression. On a dépassé cela. Nous sommes en train d'impliquer les communautés. Et certainement, ici, le maire va vous dire ce que nous sommes en train de faire par rapport à cet aspect. Nous sommes en train d'évoluer. Je voulais simplement, avant de donner peut-être, laisser les responsables du parc, vous dire en termes d'outils de gestion ce qu'on a fait. Au niveau régional, on a le schéma directeur d'aménagement qui donne des orientations par rapport à tous les documents stratégiques. Nous avons le plan de gestion du bloc W et le plan de gestion du parc spécifique du Niger 2017-2021.
Monsieur le directeur, nous allons en venir un peu plus en détail dans la manière dont le parc est géré. Et pour le moment, en tout cas, c'est de savoir l'objectif principal de la création de ce parc.
C'est la conservation des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. Le Dieu nous a délégué les ressources. Il faut qu'une façon tout pour les réserver pour les générations actuelles et futures, comme le dit tous les objectifs de toutes les conventions internationales. Merci.
Nous en venons au conservateur lui-même du parc national du W, colonel Moussa Djibey. Dites-nous, monsieur le conservateur du parc, en quoi consiste votre rôle dans la gestion du parc?
Je vais, avant de revenir à mon rôle dans la gestion du parc, faire au moins la présentation, vous dire les limites naturelles et artificielles que nous avons. Je vais m'arrêter seulement à la partie nigérienne, qui fait, comme le directeur l'a si bien dit, des 120 000 hectares. Donc, le parc national W Niger est limité à l'est par le fleuve Niger sur 75 km. À l'ouest par la rivière Tapoua, on parle tantôt de 75 km ou de 150. Au sud par la rivière Mekuru, ça c'est sûr, c'est sur 150 km. Maintenant, à l'ouest, par une frontière artificielle entre le Burkina, avec le Burkina. L'autre précision que je voudrais ajouter à ce que le directeur vient de dire, c'est sa position stratégique. Il est situé à 150 km de Niamey, donc d'un aéroport international. Il est à 5 heures de vol de l'Europe, ce qui, en Afrique de l'Ouest et quelque part, que nulle part on en trouve. Donc c'est un accès facile pour les visiteurs occidentaux, les visiteurs qui viennent de l'Europe, de l'Amérique et des autres continents aussi. Donc mon rôle, maintenant pour revenir à votre question, mon rôle dans la gestion du parc, c'est de servir de coordinateur. Je suis le coordinateur de toutes les actions. On va revenir aux différentes thématiques qui sont mises en œuvre dans le parc. Mais mon rôle, c'est de coordonner tout ça, les activités, la gestion du personnel, les relations avec les autres partenaires, etc., etc. Voilà très rapidement ce que mon rôle est ici.
Bien. Nous revenons, je ne sais pas à cette question, qui parmi vous va répondre à cette question. Est-ce qu'on peut savoir le rang du parc national parmi les aires protégées du Niger?
Oui, en fait, si tu parles de rang, c'est un peu compliqué. Le parc, c'est la principale aire protégée. C'est la vitrine du Niger en matière de conservation de la biodiversité. Parce que quand on prend les autres en termes de diversité, c'est la principale. C'est vrai, c'est une partie qui se situe au sud, où nous avons beaucoup d'espèces. Et sur le plan international, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs labels. Premièrement, c'est un site du patrimoine mondial parce que le parc regorge d'énormes potentialités en termes fauniques, en termes culturels, en termes archéologiques, en termes de toutes ces richesses que vous voyez, les gorges naturelles, tout ça là. Et c'est elle, c'est une réserve de biosphère parce que et à un certain moment, il faut impliquer l'homme. Donc vous avez le noyau central, comme je l'ai dit, où il faut préserver. Il y a la zone tampon, il faut développer les activités sociales. Et tout ça là, c'est pourquoi on intègre ça dans la dynamique d'intégration humaine. Maintenant, c'est un site Ramsar. Pourquoi site Ramsar? Parce que ce site regorge des oiseaux migrateurs et afrotropicaux. C'est un site très riche. Et récemment encore, on l'a étendu. En 1996, site du patrimoine mondial. Maintenant, les autres pays ont demandé à l'accord du Niger pour intégrer leur site comme site du patrimoine mondial. Donc l'ensemble du complexe WAP est patrimoine mondial. Et encore récemment, les autres parties sont intégrées comme site Ramsar à partir du Niger.
Parce que les autres pays,
les Bénin, autres pays Burkina. Bénin, Burkina, la partie béninoise du W et la partie Burkina du W sont intégrées comme site du patrimoine mondial et site Ramsar. Voilà un peu ce que je voulais.
Bien. Oui, monsieur le conservateur Djibé Moussa.
Voilà, donc pour vous donner une idée de l'importance du parc au niveau national en ce qui concerne la biodiversité, donc il faut savoir que le parc national regorge 80% de la biodiversité nationale.
80%.
Donc c'est parlant, c'est parlant. Donc à partir de là, on peut dire que c'est le plus haut niveau de conservation que nous avons au Niger.
Merci. C'est ça le premier rang, quand j'avais posé la question pour savoir le rang.
Comme c'est le directeur, peut-être il ne veut pas classer, mais sinon c'est comme ça.
Vous êtes là, vous classez. Alors, quels sont les genres d'espèces animales qu'on retrouve dans le parc?
Et bon, c'est des détails que le conservateur doit donner, mais en termes de la grande faune.
Oui, directeur, le directeur de la faune.
En termes de la grande faune, vous avez les éléphants, les hippopotames, oui, les hippotragues, et pour ne citer que les. Par rapport aux carnivores, vous avez les guépards, les lycaons et les hyènes. En termes des primates, vous avez les babouins, les patasses, les singes verts. Bien sûr, vous avez une catégorie des espèces d'oiseaux, oui, comme espèces tropicales et migratrices, qui sont des milliers qui font les va-et-vient, la migration. À un certain moment, vous les trouvez vers le fleuve. Une grande concentration, notamment les dindocines, les échasses blanches, les échassiers de façon générale. Donc, on a une diversité d'espèces. Mais ce qui est le plus important, où on a un grand nombre, sur la base de nos inventaires, c'est les hippotragues, les buffles. Vous avez des grands troupeaux de buffles, 200 à 300, souvent vous trouvez des grands troupeaux. Les éléphants, ils viennent à des périodes, on a des groupes qui varient, hein, de 15 à 20 individus. Et vous avez, je disais tantôt, les hippotragues, il y en a beaucoup. Et les cobres qui sont là à côté, vous allez voir. Je vais laisser peut-être certaines précisions.
Colonel Moussa Djibé, conservateur du parc,
oui,
quels sont les autres animaux, en tout cas, qu'on trouve ici au parc?
Bon, les autres animaux, je pense que le directeur a ramassé ce qu'il y a dans le parc, mais moi je voudrais étayer ça par des chiffres. Nous avons, comme il a dit, les grands mammifères, nous avons environ 73 espèces de grands mammifères dans le parc. Et dont les plus emblématiques sont ce que le directeur venait de citer, les éléphants, les hippopotames, les buffles, les lamantins, etc., etc. Donc maintenant,
est-ce qu'on trouve des girafes ici, par ici?
Non, il n'y a pas de girafes dans le parc. Il n'y a pas de girafes dans le parc.
Des gazelles?
Oui, les gazelles, comme il a dit, nous comptons environ une douzaine d'espèces. Donc il a commencé par citer les hippotragues, les grandes antilopes, donc les hippotragues, les bibales, les damalisques, le cobre de Buffon, le cobre de Fassa, s'il faut citer tous les 12.
Bien.
Donc, les guibes harnachés, les céphalophes, donc ça c'est les plus petites antilopes, les céphalophes, la gazelle à flanc roux, et les ourébis, la gazelle rififrant, la gazelle.
Ça va.
Voilà, etc. En tout cas, une douzaine d'espèces qu'on peut répertorier comme gazelle et grand antilope.
Alors, est-ce qu'il y a des animaux qui aujourd'hui ont complètement disparu? Si oui, est-ce qu'on sait pourquoi?
Complètement disparu, je
ne
peux pas le dire, mais il y a des espèces qui sont rares à observer, comme les damalisques parmi les grandes antilopes. Nous avons les damalisques, donc c'est rare de les observer et les gens se disaient que c'est une espèce mythique, une espèce qui peut disparaître pendant une dizaine d'années et subitement vous la voyez encore, qui fait généralement cavalier avec les bivalves. Généralement c'est dans les groupes de bivalves vous les observez. Donc il y a le lamantin que je venais de citer tantôt dans le fleuve Niger.
Quel genre d'animal?
C'est un mammifère aussi qui est dans le fleuve Niger. Bon, les gens pensaient que c'est un poisson, mais c'est pas un poisson. Donc qui est rare aussi d'observation ces dernières années, mais que seuls les pêcheurs peuvent dire s'il existe encore. Il y a la loutre à joues blanches qui est aussi difficile d'observation, etc., etc.
Alors, est-ce qu'il existe des animaux qui aujourd'hui, vous pensez, sont menacés d'extinction?
Oui. Justement, il a précisé, c'est les espèces qu'il a soulignées, c'est les lamantins, où on donne un regard. C'est le lamantin, c'est le lican, c'est le léopard, c'est la loutre à joues blanches. Dans le cadre de nos suivis écologiques, on a une liste des espèces menacées, qu'on contient rares, et on met l'accent sur leur suivi, et on oriente les aménagements pour quand même faire en sorte que ces espèces...
Et cette liste contient au moins une vingtaine ou une quinzaine d'espèces?
À peu près une quinzaine. C'est y compris les oiseaux. Vous savez, avant, même l'aigle pêcheur qu'on trouve le long du fleuve. On voit que maintenant, c'est quelques individus qu'on voit. Et il y a beaucoup d'autres espèces, comme avant, l'outarde, la grande outarde, avant, on voit ça. Maintenant, c'est rare. Comme le lamantin, où on met l'accent avec les pêcheurs pour voir certains habitats naturel, où on essaye à mettre les défenses pour faire venir ces espèces.
Alors, est-ce que parmi les raisons, est-ce que le changement climatique, vous pensez qu'il fait partie des facteurs de disparition de ces espèces?
Non, il y a beaucoup de facteurs. Vous savez, quand on considère le fleuve, on ne voit pas les pollutions diverses. On a des pesticides, c'est comme les poissons. Aujourd'hui, on dit 120 espèces de poissons au parc, mais en réalité, aujourd'hui, si on fait des investigations, peut-être on va trouver qu'on n'a que 70 ou moins. Il y a les pollutions, il y a les actions et climatiques, justement les sécheresses répétées, qui font en sorte que les points d'eau qui sont évidemment permanents avant sont devenus temporaires, les marques, vous voyez. Il y a les actions humaines, notamment le braconnage, les feux de brousse, et les prélèvements, que vous voyez, les bourgous, les ressources forestières, tout ça là. C'est une combinaison d'actions qui font en sorte que certaines espèces deviennent rares et menacées.
Est-ce qu'on connaît la tendance, le braconnage a plus de pression sur ces animaux ou ces changements climatiques?
Premièrement, c'est des choses, c'est complet. Le braconnage, la progression du front agricole et les feux de brousse. Imaginez un feu de brousse naturel qui se déclenche en mars. La chaleur du feu, combinée à la chaleur du moment, ça fait pression sur des espèces naturellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la tortue sulcata, avant en saison hivernale, vous la voyez. Maintenant, elle deviendra parce que les jeunes sont menacés. Les oiseaux, quand vous mettez le feu, les poussins sont menacés. Les autres espèces de criquets, les insectes, sont menacés. Vous les voyez. Dès que vous mettez feu, vous allez voir les aigles pêcheurs tournoyer. Donc les insectes, le feu fait survoler les insectes et les aigles pêcheurs. Donc c'est des menaces importantes qui sont là. C'est catégorisé et maintenant, justement, avec les changements climatiques et les sécheresses répétitives, en sorte que et certaines espèces, on est en train de vivre certaines situations où ces espèces deviennent rares.
Monsieur le conservateur du parc national du W, colonel Moussa Djibé, qu'avez-vous à ajouter par rapport à cette question de changement climatique qui pourra avoir ou qui est en train d'avoir des effets sur les animaux, les espèces conservées au parc national du W?
Ce que j'ai ajouté par rapport au changement climatique, effectivement, c'est faire perceptible. C'est perceptible dans le parc qui connaît les parcs il y a une trentaine, cinquantaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui sont intervenus.
Quoi, par exemple?
Sur, par exemple, les mares qui avaient un débit permanent ont changé aujourd'hui parce qu'elles sont envasées. Il y a eu des dépôts de sable ou je ne sais pas de quoi qui sont venus changer carrément leur régime. Au niveau du fleuve Niger, vous n'êtes pas sans savoir que le fleuve n'avait plus le débit qu'on lui connaissait, la durée de la crue qu'on lui connaissait. Tout a changé parce qu'il y a eu un apport qui est venu de quelque part et qui, au fil du temps, s'est déposé dans le lit et qui a fait que les niveaux ont changé. Alors que ces animaux, en tout cas certaines espèces qui occupaient ces habitats, ces habitats ont besoin d'une certaine profondeur, ont besoin d'un certain habitat. Tant que ça n'existe pas, donc ces espèces aussi sont appelées à disparaître ou à migrer carrément dans les zones favorables. Il vous a parlé des oiseaux. Les oiseaux peuvent aller là où l'habitat est favorable, là où l'habitat est viable. Mais si on prend certaines espèces de mammifères, comme les hippopotames, c'est difficile pour eux. Ils vont changer d'attitude en s'attaquant aux rizières, comme ça se faisait dans certaines localités. Nous ne vivons pas ça ici, mais ça risque de venir aussi. Ça risque de venir aussi. Il y a une certaine anthropisation qui est arrivée, tout ça, grâce au changement climatique. Parce que les pêcheurs qui, dans le temps, s'occupaient seulement d'un certain nombre de mares intérieures au fleuve et intérieures au pays, sont obligés de quitter ces lieux-là pour venir au bord du fleuve où ils pensent, en tout cas, trouver leur survie, etc., etc. En tout cas, tout ça là, ça dénote de l'effet des changements climatiques que nous observons ces dernières années.
Bien. Nous abordons l'importance même du parc national du W. Nous allons commencer par le préfet de Saï, Mustapha Mahman. Monsieur le préfet, dites-nous que représente le parc pour vous sur le plan socio-économique, touristique et environnemental.
Pour connaître le parc du W au Niger, à l'échelle mondiale, je pense qu'il faudrait d'abord que nous, Nigériens, nous le connaissions d'abord. Et c'est là où les bas blessent aujourd'hui. On va venir à l'importance, mais il faudrait que je dise deux mots quand même sur ce que le comportement qu'ont les Nigériens par rapport à certains sites touristiques que nous avons, tels que le parc qui est le plus important. Le parc, c'est au Niger. Et c'est essentiellement dans le département de Saï, la commune rurale de Tamou. Moi, ce que j'ai constaté, et qu'il faut très vite redresser, je pense, à l'échelle nationale, c'est dans les enseignements à tous les niveaux, on ne parle nulle part du parc. Peut-être on les cite dans une liste de sites touristiques ou des réserves, tout simplement, mais pas en détail. Prenons un peu la géographie du Niger. Quand on parle de la saison de pluie au Niger, on parle la plus grande isolette dont on parle, c'est l'isolette 900, qui est celle qui traverse le département de Gaya. Mais nous avons une isolette supérieure qui fait 1200 à 1400 mm dans le parc. On n'en parle pas. Ici, c'est la grande savane. Ailleurs, c'est la petite savane. Ici, c'est la grande savane, on ne parle pas. C'est 10 000 km carrés quand même. C'est une bonne partie de la superficie du Niger. Et c'est ce qui doit faire aussi la curiosité et l'importance du parc maintenant. Je pense que en tant qu'espace de biodiversité, et le parc constitue d'abord, le mot est assez fort, mais je le dirais, une sorte de toit pour ces pays. Parce que ça régule beaucoup de choses du point de vue climatique. C'est un microclimat qui est là. Et l'autre importance, c'est quand même un site de curiosité touristique. Qui ici, on le met en valeur. C'est un don de Dieu, c'est un legs de Dieu, comme on dit. Mais qui ici, on le met en valeur, va apporter beaucoup de devises pour l'économie de ces pays. C'est aussi un site de recherche. non seulement pour les nationaux, pour les chercheurs nationaux, mais pour les chercheurs à l'international. On devrait faire de sorte que ces portes soient connues des plus grandes universités du monde et que ça peut servir de terroir de recherche dans tous les domaines. Oui, et ça participe pour beaucoup aussi à l'équilibre écologique de ces pays, pour qu'ils ne soient pas rompus. Ailleurs, c'est de la dégradation totale. Ici, si on maintient l'équilibre, peut-être qu'on pourra s'en sortir. Donc, l'un dans l'autre, le parc est d'une très grande importance dans ces pays. Mais bien avant de découvrir, c'est avant de vraiment de comprendre que c'est d'une grande importance, il faut, je pense à mon avis, apprendre à le connaître d'abord en tant que Nigérien.
Avant de le faire promouvoir, de le promouvoir pour, voilà, pour les autres.
Pour les autres.
Bien. Nous donnons la parole au maire de la commune rurale de Tamou, qui est Yacouba Diallo, monsieur le maire. En quoi est-ce que le parc national profite aux populations de la commune rurale de Tamou?
Merci. Je remercie d'abord la radio Kalangou pour nous donner l'occasion de nous exprimer sur le parc. Le parc, l'importance qu'il a pour notre commune, je pense que je suis mieux placé pour le dire. Parce que les recettes du parc, nous en recevons. On a les 50% qui nous revient.
50% des recettes engendrées
par le parc revient à la commune. Et ces recettes, nous aussi, de notre côté, nous allons profiter à la population riveraine du parc. Pour que cette population puisse profiter de ça et que cette population, qu'on puisse leur faire des activités pour ne pas menacer le parc. Parce qu'ils vivent des substances au sein du parc. Donc, s'il y a des activités régénératrices pour cette population, ils auront des occupations et ils auront encore l'importance du parc pour encore protéger le parc. Parce qu'ils sont mieux placés. Ils vivent la situation du parc. Donc, nous, c'est pour cela, les revenus, on les partage avec les villages environnants du parc.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée concrète d'activités que vous menez pour, en tout cas, encourager ces gens à ne pas faire des choses?
Par exemple, au niveau des activités génératrices de revenus, on a des apiculteurs, vous voyez. Donc, on les appuie, les apiculteurs. On les fait encore à l'épuis aussi, voilà, au niveau des villages. Tout ça, c'est des activités que nous faisons pour retenir la population de ne pas aller dans le parc. Voilà.
Alors, les 50% des recettes du parc qui nous sont versées, cela représente combien de pourcents des recettes globales de la mairie? Est-ce que les 50% font les 100% des recettes de la mairie,
non,
ou les 80% ou les 50%?
Contribue quand même.
Qu'est-ce que le tourisme aujourd'hui, développé autour du parc, rapporte aux populations riveraines en particulier et au Niger en général? Cette question, je laisse à qui, en tout cas, veut répondre à cette question. Monsieur le directeur de la FON.
Merci. En fait, la filière touristique, les gens ne voient pas toute cette filière. Quand un touriste arrive au Niger, il faut d'abord comptabiliser toute cette filière. Les agences de voyage, ils en profitent. Les artisans, ils en profitent. Les hôteliers, ils en profitent. Au niveau local, les maires en profitent parce que quand même, il y a des cadeaux. Il y a les visites touristiques, il y a les brochures ou les documents ou tout ce qu'en termes de cadeaux, ils achètent au niveau local. Toute cette filière, il faut comptabiliser ça. Il ne faut pas voir seulement l'entrée du parc.
Il faut voir un peu tout le cheminement de l'entrée au pays à la sortie.
Tout
ce qui est dépensé, en tout cas, pas seulement au niveau à la destination.
Et quand vous faites, par exemple, en 2006 à 2007, on a enregistré à peu près 5600 visiteurs. Et du coup, les simples recettes, c'est à peu près 19 millions. Mais quand vous faites cette filière, l'ensemble de la filière, c'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup des aspects que les gens ne prennent pas en compte. On a vu des touristes qui viennent, ils voient que les enfants sont malades, ils retournent, ils envoient des cadeaux. On a vu dans le village de Moli, les touristes qui viennent, ils s'intègrent dans la famille et ils payent l'école d'un enfant à Kolo. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou bien ils achètent des appareils, ou bien ils envoient de l'argent pour justement créer les conditions pour les femmes en termes des activités de développement local. Et on a vu exactement en 2005 où un groupe de touristes sont venus, ils ont fait beaucoup d'actions sociales au niveau d'un certain nombre de villages à la périphérie du Bali. C'est ça que je voulais un peu expliquer.
Donc cela montre tout le sens du parc en termes de biens publics communs pour tous les Nigériens. Parce que s'il y a aujourd'hui un touriste qui rentre, cela profite pas seulement qu'à la commune ou au département de Saï.
Oui, mais je voulais, avec votre permission aussi, oui, que le conservateur nous dise, parce que le maire a parlé, c'est qu'il gagne ensemble les recettes. Mais lui, il va vous dire ce que les populations gagnent en termes de leur participation aux activités d'aménagement.
Bien, si le conservateur, colonel Jubé, est bien disposé à répondre, en tout cas à nous donner plus d'éléments d'information par rapport à cette question de profit de la population.
Par rapport au parc.
Oui.
Ok, d'accord, merci. Donc, comme le maire l'a si bien dit, hein, le parc est vraiment un outil à la disposition des populations pour améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, comme vous avez parlé d'activités, d'aménagement, il y a des moments où nous programmons beaucoup d'activités avec cette population riveraine qui vient nous appuyer dans ce qu'on appelle par exemple l'ouverture des pistes. Nous avons 825 km que nous ouvrons chaque année et ils sont rémunérés au kilomètre. Et le kilomètre fait 8500. Donc quand vous tapez 825 fois 8500, c'est dans les 7 à 9 millions qu'on éjecte en moins de 2-3 semaines. Et ça, dès que vous venez, quand la période passe, vous constatez vous-même qu'il y a la joie dans les familles. Il y a les activités de traitement des points critiques.
C'est quoi les points
critiques? Les points critiques, c'est généralement les dégâts, les dommages causés par les eaux de ruissellement sur les pistes, les 825 km là. Donc il y a des endroits qui sont érodés, où il y a des nids de poules, où Karma, c'est une rigole qui passe. Donc avec les populations, au lieu de donner à des grandes entreprises, on préfère organiser la population pour les colmater, pour faire certains travaux qui ne sont pas tellement des travaux d'art. Voilà. Et là aussi, c'est des milliers, des millions de sous qui sont injectés dedans.
Bien.
Voilà. Il y a le fait que la population dispose d'une certaine organisation. Par exemple, si je prends le cas des éco-gardes qui sont ici, c'est une force qui nous appuie, qui appuie les forestiers dans la conservation. Tous ces éléments-là sont recrutés parmi la population et ils sont une trentaine. Ils vivent, eux et leur famille, au dos du parc, de leur parc. Il y a l'association des guides. Comme il l'a dit, si en matière de taxes d'entrée, nous percevons 20 millions, sachez qu'eux, ils ont eu 50 millions. Parce que nous, pour les Nigériens, ils payent 3 000. Mais pour les guider, dans le parc, le guidage coûte 5 000. Et le guidage est obligatoire. Tu ne peux pas venir dire non, je n'ai pas d'argent. Ça, tu ne peux pas rentrer tant que tu ne prends pas le guide. Donc c'est pour vous dire toute l'importance, en tout cas, du parc pour la population riveraine.
Concernant la gestion nationale et transfrontalière donc du parc national, les atouts, les difficultés et les perspectives. Alors, monsieur le directeur de la faune, de la chasse et des parcs, parcs des réserves, comment se fait la gestion du parc national, du W au plan local, national et sous-régional? C'est vrai que vous avez ébauché au début un peu cette question.
Merci, c'est une question pertinente. Ouais. Au niveau national, nous avons une unité de gestion qui est dirigée par le conservateur avec d'autres chefs de service, notamment le service d'aménagement, de protection et de suivi écologique, le volet tourisme, qui sont au niveau du parc. Au niveau régional, nous sommes en train de gérer certaines activités. Nous organisons les parties régionales ensemble avec les éléments du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Nous avons une infrastructure régionale qui est au cœur du parc régional, qui est le pont triple, où c'est des infrastructures où tous les éléments qui arrivent, par exemple, une dizaine de forestiers du Niger, ils ont leur hébergement. Nous avons 10 du Burkina, nous avons 10 du Bénin, et qui organisent les patrouilles régionales, suivant un secteur bien déterminé, qui est la Mekuru, qui est censé abriter la richesse spécifique au niveau de ce point d'eau, et donc c'est une convoitise. Donc, il faut surveiller ça. Et le secteur avec le Burkina Faso, où c'est les zones sensibles pour le braconnage. Ça, c'est la partie régionale.
Et c'est ça un périodique?
Ça, c'est nous avons un partenaire qui nous appuie et c'est périodique.
Nous avons l'année combien de fois?
Ça dépend. Il va vous donner la précision. C'est eux qui organisent. Et en termes d'organisation, il y a un conservateur parmi les trois qui assure le commandement.
Ok.
Par exemple, il y a des périodes, une année, c'est lui qui assure le commandement. C'est lui qui dirige le commandement des parties régionales et il faut leur planification. Chaque période, c'est planifié. Et chacun apporte les moyens. OK? Maintenant, une autre activité qui est la formation anti-braconnage. C'est ensemble qu'on fait, les trois pays. Nous faisons les inventaires à grande échelle. Si c'est inventaire aérien, ça, c'est peut-être 5 ans chaque mois, chaque 5 ans. Et maintenant, les inventaires pédestres, chaque 2 ans, et les inventaires sur les carnivores, chaque 2 ans aussi. Ça, c'est des activités régionales. Qu'on se convient ensemble, parce que c'est une entité écologique, il faut qu'on avance ensemble. Les animaux bougent. Si le Niger seul fait à sa partie, c'est qu'il peut avoir doublon. Ça, par rapport à la régionalité, nous avons le CM qui conseille des ministres qui se réunit pour valider le plan, la planification annuelle et le rapport des activités antérieures et donne des orientations pour certaines activités. Nous avons le conseil technique de suivi régional qui c'est des techniciens qui font un travail et qui soumettent au conseil des ministres et nous avons les forums d'acteurs qui se réunissent avec les maires, avec ceci, cela. Souvent, vous allez voir, on va se retrouver et parler de certaines thématiques d'importance. OK? Certaines précisions, ils vont.
Monsieur le conservateur, vous avez quelques mots à...
Oui, par rapport aux patrouilles régionales. Donc, cette année, nous avons planifié trois patrouilles régionales. Trois patrouilles régionales avec notre bailleur, mais compte tenu du volume d'activité qu'ils ont là-bas, nous n'avons pas encore pu organiser une seule. Mais ce qui est sûr, d'ici la fin d'année, parce qu'il y a une période pic où le braconnage est très intense, donc en ce moment, on sera obligé d'organiser ça. Ça, c'est en fin en fin d'année où la demande de la viande du côté des autres pays, la viande sauvage est très, très importante. Donc, c'est ça, on a planifié trois, mais jusque-là, nous n'avons pas pu réaliser une seule. Et l'autre chose, ça tombe bien, puisque c'est nous qui assumons le rôle de conservateur régional.
Régional, donc parmi les trois pays.
Voilà, parmi les trois pays. 2018, c'est le Niger. 2019, on va passer ça au Bénin. 2017, c'était le Burkina qui avait assumé ça. Donc, généralement, les patries sont organisées dans les zones les plus difficiles où un seul pays ne pourra rien faire. Donc, les zones névralgiques sont généralement Sylla-Mekru et la frontière avec le Burkina. Donc, c'est les deux zones-là qui sont généralement fouillées par les patries régionales. Voilà.
Monsieur le conservateur, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût qu'engendre la gestion d'un parc de ce genre?
Non, il faut parler pas du coût, il faut parler des charges récurrentes. C'est les charges récurrentes, c'est quoi? C'est les activités quotidiennes. Il faut minimum, en termes de charges récurrentes, les activités quotidiennes, là, la surveillance, le suivi écologique, les primes, le carburant pour le fonctionnement, il faut aller à peu près à un montant je ne dis pas à peu près 200 millions. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, en fait, en perspective, ce qu'on est en train de vivre par rapport aux autres parcs, c'est qu'on est en train de penser à un mécanisme de financement durable. Ça, on est engagé là-dessus. Et maintenant, et le préfet a dit des choses intéressantes, importantes, c'est la communication, la visibilité. Et nous sommes à la direction et en train justement d'élaborer un plan de communication qui va intégrer semaine sur les aires protégées, qui va entrer les journées portes ouvertes ici, qui va intégrer l'élaboration des produits, des brochures promotionnelles, les porteurs, la participation aux événements nationaux que les gestionnaires aillent présenter les brochures et autres, la participation aux forces internationaux. Ça, c'est la communication. Avant, on le faisait. Maintenant, on va reprendre.
Bien.
Et il y a certaines précisions que lui, il va apporter.
Oui, monsieur le conservateur.
J'aimerais rebondir sur ce que le préfet vient de dire par rapport à la diminution de la pression de la population sur le parc, pour faire un clin d'œil à certains partenaires aussi, parce que dans ça, nous sommes aidés par des ONG, et si nous n'en parlons pas ici, on n'a pas été correct envers eux. Donc, nous avons, par rapport à la diminution de la pression sur le parc, il y a un projet qui s'appelle Projet Darwin, dont nous sommes actuellement en train de travailler là-dessus, qui est en train de mettre en œuvre, qui est en train d'être mis en œuvre dans la périphérie et qui produit, qui appuie les populations dans la production des feuilles de baobab. Vous savez, les feuilles de baobab font partie des produits forestiers non lignés. Et Dieu seul sait que dans la périphérie, combien de femmes chaque matin, chaque soir pénètrent dans le parc pour aller en cueillir. Donc ce projet-là a vu que c'est vraiment un problème et a décidé de mettre les pépinières à leur disposition pour en produire eux-mêmes à la base.
Alors, quels sont les atouts et les défis de la gestion commune transfrontalière du parc avec les pays voisins? Monsieur le directeur, je ne sais pas si c'est vous le conservateur ou le directeur. Les atouts et les défis d'une gestion commune transfrontalière.
Les atouts, c'est qu'on a des documents. On a des documents, je dis, qui définissent nos orientations. On a des documents de référence, notamment les PAG, les plans d'affaires, les plans et les schémas directeurs d'aménagement. Nous avons déjà un cadre, nous avons des infrastructures et nous avons des instances décisionnelles. Sur là, ça, c'est des atouts.
Bien.
Maintenant, les défis, c'est que la persistance du grand braconnage. Nous avons l'intrusion des braconniers étrangers. Nous avons l'éléphant qui est visé. Vous savez, l'ivoire.
L'ivoire est oui.
Et ça, au niveau régional, ça là, nous sommes en train de se battre. Et c'est pourquoi nous avons élaboré un document de référence qu'on a fait pour le programme de lutte anti-braconnage, qui prévoit beaucoup de ressources pour... Et justement, renforcer les équipements des conservateurs, des gestionnaires, renforcer les capacités opérationnelles d'intervention et mettre en place un réseau de communication, impliquer les communautés, impliquer les autorités pour que chacun investisse pour régler ces questions d'importance. Parce que c'est des menaces qui sont là, c'est la transhumance, c'est le front agricole. Si vous voyez un peu comment le front agricole vient, c'est le point vert du Niger. Les gens sont en train de venir parce que c'est riche. On a à manger dedans, on a les terres fertiles, on a les bons poissons, on a
les oiseaux.
Mmh. Donc les gens en viennent, il faut quelque part barrer ça.
Fin du forum de ce soir sur l'importance des aires protégées, le cas du parc national du W. Nous étions en compagnie du préfet de Saï, Mustapha Mahman, du maire de la commune rurale de Tamou, Yacouba Diallo, du directeur de la faune, de la chasse, et des parcs et réserves, Samaïla Sahelou, et du colonel Moussa Djibé, qui est le conservateur du parc national. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Ali Issoufou. Merci.